7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. On connaissait le harcèlement moral au travail, peut-être un peu moins celui qui existe dans la famille, celui qui se joue dans l'intimité, en huis clos, entre parents et enfants, ou bien au sein même du couple. Quand la famille fait mal, violence psychologique, manipulation, mots durs et dévalorisants, comportements tyranniques, il peut aussi exister, des psychologues s'y penchent depuis peu, un harcèlement entre frères et sœurs. Bref, la famille peut briser, fragiliser, anéantir sa confiance en soi. Alors quel impact peuvent avoir nos proches sur nous et comment réparer de telles blessures et se reconstruire. Bonjour Yvonne Poncet-Bonisol.
Bonjour.
Vous êtes psychoclinicienne et vous publiez le livre Pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille. À côté de vous, Élodie Mulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille et vous avez publié dans le livre d'Yvonne Poncet-Bonisol un chapitre consacré à la justice française peu puissante, on le verra, face à ces violences. Nathalie Debois-Grolier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach parental et fondatrice de l'association OSE, une association d'aide à la parentalité. Vous travaillez sur la parentalité positive et vous publiez le livre Élever ses enfants sans élever la voix. Et nous serons en ligne un peu plus tard dans l'émission avec le psychiatre Gérard Salem, spécialiste en thérapie familiale. Et vous, les voisins, les voisines, avez-vous été blessés dans votre enfance par des mots de vos parents ou bien de vos frères et sœurs, ou alors dans les années plus récentes par des reproches, des critiques de votre conjoint? Racontez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 ou sur WhatsApp avec le même numéro 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Mais tout de suite, témoignage. Louise a 27 ans. Elle vit et travaille à Paris, née d'une mère britannique, d'un père français décédé il y a 4 ans. Elle a aussi un frère cadet âgé de 3 ans de moins qu'elle. Elle raconte son histoire de famille au micro d'Alice Milo.
En apparence, on était une famille parfaite. Mon père était quelqu'un de très sociable, de très gentil, plutôt bienveillant avec les autres. Et donc face aux gens, on était un peu la famille parfaite. Et puis il parlait de nous devant ses amis, devant le reste de la famille, comme la prunelle de ses yeux, quoi. Ah, oh, regarde ma femme comme elle est belle, c'est une Anglaise. Mes enfants, regarde comme ils sont beaux, ils sont intelligents. Ma fille, elle fait ça comme étude. Mon fils fait ça. Et puis c'est génial, ils sont la double nationalité, ils vont pouvoir aller loin dans la vie. Devant les autres, on recevait plein de compliments sur nous. Et dans l'intimité, c'était totalement l'opposé. On se prenait des critiques assez virulentes et sans vraiment comprendre pourquoi. On n'était vraiment pas serein, c'était vraiment une appréhension. Je me rappelle le soir, quand je rentrais de l'école, je devais avoir 14-15 ans au collège, je me disais dans quel état va être mon père. Parce qu'un jour, ça pouvait être tout allait bien, puis le lendemain, totalement l'opposé, ou même la seconde d'après, totalement l'opposé. Est-ce que c'est à moi qui va s'en prendre aujourd'hui? Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Ou est-ce que c'est mon petit frère? Ou est-ce que c'est ma mère? Tous les jours, il s'en prenait à quelqu'un. Le repas, c'était les moments à quatre, et c'était le pire des souvenirs que j'ai. On pouvait vraiment être assis, et je vois très bien la table du salon où on est assis tous les quatre, et puis d'un coup, mon père, en bout de table, va dire « Louise, tu t'es vue, regarde, t'as pris du poids, t'es grosse, t'es moche. » Et puis en fait, à l'époque, il y avait une BD qui venait de sortir qui s'appelait Tamara. Et c'était l'histoire d'une petite fille qui était un peu en surpoids. Et mon père m'a appelée Tamara pendant, je pense, un an. Mon père était brillant. Il a fait des grandes études. C'était quelqu'un de très intelligent. Il disait que dans la famille, c'était le seul à avoir eu un bac plus 5 et que personne n'arriverait à son niveau-là. Mais du coup, d'une seconde à l'autre, il me disait « Mais est-ce que tu sais en quelle date c'était cette guerre-là » J'avais 13 ans ou 14 ans, j'avais aucune idée, ça m'intéressait pas forcément plus que ça l'histoire. Et puis du coup, je me faisais rabaisser, mais sans raison apparente, je pouvais être la plus intelligente. Quand on avait justement un débat durant des dîners familiaux, je pouvais être la plus intelligente, la plus brillante, tout ce qu'on voulait. Et puis le lendemain, ça pouvait être « Mais t'es la plus grande déconne, mais t'es débile, mais t'arriveras jamais à rien dans ta vie. » Et voilà, il savait très bien qu'en me posant ce genre de questions, j'allais pas pouvoir lui répondre.
Il vous faisait des interros surprises permanentes.
Oui, c'était surtout pour montrer, je pense, son intelligence et pour montrer sa culture. Mais souvent, soit je rentrais dans l'agression en lui disant « Mais tu t'es vu, toi ?» ou des choses comme ça, ou je pleurais, ou j'étais très vexée.
Il a instauré un climat de terreur, en fait, dans la famille.
Ouais. Je sais pas du tout s'il prenait du plaisir. J'ai l'impression que oui. Je pense que ça le valorisait, lui, en tant que personne, d'écraser ses enfants et sa femme, ouais. Le dernier souvenir que j'ai avec mon père, c'était juste avant Noël, et puis ma mère et mon petit frère étaient en Angleterre, et on était en train de dîner tous les deux, et il me demandait si j'étais heureuse. Et je lui disais que oui, j'étais très heureuse à ce moment-là, que tout se passait bien dans ma vie, et il me disait qu'il était très fier de moi, et qu'il m'aimait, et qu'il était très heureux de voir où j'étais arrivée. Et une semaine après, c'était l'anniversaire de mon petit frère, et puis j'arrive avec du rouge à lèvres, et mon père me dit, on dirait une pute, ou c'est que les putes qui portent du rouge à lèvres. Et c'est la dernière fois que j'ai parlé à mon père. Je l'ai déjà confronté, je lui ai déjà dit, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu te rends compte de ce que tu me dis? Tu devrais pas dire ce genre de choses à tes enfants? T'as pas honte? Si t'as fait des enfants, c'est pas pour les rabaisser? Puis sa réponse était, mais t'es trop faible. Si t'arrives pas à recevoir quelques critiques comme ça, comment est-ce que tu vas faire dans la vie? Je sais pas s'il se rendait compte du mal qu'il nous faisait, mais je pense qu'inconsciemment, il pensait nous faire du bien. En nous critiquant, en nous disant ce genre de choses, je pense qu'il essayait de... Enfin, il pensait en tout cas nous endurcir et nous tirer vers le haut.
À quel moment vous avez compris que votre père était un pervers narcissique ?
Le terme pervers narcissique, je pense que je l'ai découvert pour Internet après la mort de mon père. Je suis tombée sur un article que mon petit frère m'a envoyé. Il est sorti en 2015, l'article. Et il m'a envoyé l'article en me disant « Putain, on dirait papa ». Et j'ai lu l'article et ça m'a mis les larmes aux yeux en me disant « Oh là là, je me reconnais à 100% dedans ». C'est la première fois que je voyais le terme « perversion narcissique » en fait. Et c'est là du coup que j'ai compris... que ça avait un nom, mais c'est vrai que de trouver un nom et de trouver une sorte d'explication et de se dire que oui, en fait, mon père avait une forme de maladie, ce qui pouvait expliquer pourquoi il était comme ça. Après, je sais pas si c'est décrété comme une maladie ou pas, j'aime bien penser que oui, parce que je me dis au moins que c'est une excuse à son état. C'est dur, hein, d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est méchant et qui est pas bienveillant avec nous-mêmes, mais je pense qu'avec un peu de recul maintenant et avec un peu de maturité, je me dis que j'ai un peu d'empathie. En tout cas, pour mon père, je commence un peu à en avoir.
Yvonne Poncet-Bonisol, comment vous réagissez à l'écho de ce témoignage ?
Témoignage très intéressant, très émouvant, mais qui résume fort bien tout ce qu'on peut trouver comme qualificatif et comme mode de fonctionnement de ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement, parce qu'on peut parler de vulgarisation, du pervers narcissique.
On parle beaucoup de pervers narcissique.
Oui, alors, comment il faut faire attention. Alors, le pervers narcissique, déjà, il faut faire un diagnostic différentiel, parce que la perversion narcissique est un mécanisme de défense contre, justement, un effondrement psychique. Quand le témoignage évoque « mon père était-il malade ?» Oui. Ce sont des êtres qui souffrent de quoi ? Qui souffrent d'un trouble de l'altérité. L'autre n'existe pas. Donc ils ont un rapport à l'autre qui est un rapport de façade, un rapport de séduction, un rapport d'image. Mais au fond, ils sont incapables de véritable attachement et de véritable amour. Donc que font-ils pour cela ? Eh bien, ils sont obligés de dévaloriser l'autre, de critiquer l'autre, et parce que c'est une forme de projection qu'ils ont.
En l'occurrence, sa fille.
À sa fille. Mais c'est les enfants, c'est l'épouse, c'est tout l'environnement. Mais on voit très bien que tout se passe en huis clos. À l'extérieur, ce sont des vrais comédiens. Ce sont des comédiens du sentiment, mais ils ne sont pas dans le sentiment.
Il y a un vrai double visage.
Il y a un double visage et aussi, c'est accompagné de ce qu'on appelle un discours paradoxal. Elle peut être merveilleuse et le lendemain, elle est trop grosse. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans la perversion narcissique, il y a la notion de narcissisme et d'image. Il s'attaque beaucoup au corps de l'autre, à l'image de l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas que leur enfant ne soit pas tel qu'ils voudraient qu'il soit, c'est-à-dire mince, beau, dans la réussite. Et on voit très bien que l'enfant est le faire-valoir de leur narcissisme qui est souvent défaillant. Moi, j'ai plaisir à dire, pas plaisir, mais je dis souvent que ce sont des êtres qui ont une forme de psychose blanche. Ils sont psychotiques, ce sont des autistes de l'affect. Mais ça ne se voit pas, une psychose blanche, parce que ça n'apparaît pas.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'émotion ?
Alors, ils ont des émotions, mais des émotions pour eux. Ils sont hypersensibles, mais hypersensibles pour eux. Mais face aux pleurs, ils ne réagissent pas. Ils se mettent en général très en colère quand ils ont face d'eux quelqu'un qui pleure. En ce qui concerne l'empathie, ce qui est très intéressant, ils ont une forme d'immaturité. Et on a effectivement parfois envie de les protéger. Ce qui crée d'ailleurs un des éléments de l'emprise. Mais on verra plus tard pourquoi cette emprise est si forte avec eux.
Et comment justement grandit-on quand on est l'enfant pervers?
Quand on est l'enfant, on grandit d'une manière assez difficile, c'est-à-dire sans trop d'affect. On est toujours en quête de reconnaissance. On fait en sorte de devenir ce qu'il aimerait qu'on soit, si c'est le père ou la mère. Parce qu'attention, il faut bien souligner que ça se conjugue au masculin comme au féminin. Il n'y a pas que les hommes qui sont pervers. Et quand une femme s'amuse à être perverse, eh bien, c'est encore plus douloureux parce que les mères perverses peuvent totalement détruire leurs enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Ils sont élevés dans un climat d'insécurité affective et surtout de culpabilité. C'est toujours de leur faute si ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, elle dit fort bien, cette jeune fille, je ne savais pas ce qui allait se passer quand mon père allait rentrer. Et ça va être la faute de qui? Donc, on travaille toujours sur la notion de la faute. Le pervers narcissique n'est jamais responsable. C'est toujours l'autre qui est responsable et qui est fautif.
Et cette relation de domination peut aussi s'exercer dans le couple. Élodie Mulon, que faire dans une telle situation en France? Que prévoit la loi à ce sujet?
En fait, c'est assez compliqué parce que la loi, elle prévoit effectivement... La loi de 2010 et puis ensuite 2014 essaie vraiment de lutter contre les violences conjugales. Et les violences conjugales, ce ne sont pas des violences simplement physiques mais aussi morales. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que c'est extrêmement difficile de l'éprouver parce que, comme vient de le dire Yvonne, c'est vraiment dans l'intimité du couple. Et c'est des couples toujours qui fonctionnent très bien à l'extérieur. Et le pervers narcissique, en tout cas celui qu'on arrive globalement à qualifier comme tel, nous, dans les dossiers, est quelqu'un de très gentil. Donc, comme il nous faut des preuves devant le juge, donc des preuves, c'est des attestations, personne ne fait des attestations. Parce que tout le monde répond à la victime. Je comprends pas, il était super gentil avec toi, t'étais gâté et tout ça. Donc c'est très compliqué.
On peut penser qu'à la fabule, la victime.
Ouais, c'est très compliqué. Alors ça commence à être reconnu, mais les juges n'ont pas encore les clés vraiment pour répondre à cette difficulté.
Yvonne Poncet-Bonissal, vous racontez dans votre livre l'histoire de victimes, souvent des femmes en l'occurrence, victimes donc de leur conjoint pervers narcissique, qui se retrouvent à démissionner, qui sont aussi poussées à l'isolement.
Alors, une des armes, effectivement, du pervers narcissique, c'est l'isolement par la dévalorisation, l'humiliation. Tous les amis sont des êtres qui sont généralement pas fréquentables, selon lui. La famille de son épouse, il faut bien préciser que ça se conjugue au masculin comme au féminin. On dit il, mais c'est pas obligatoirement l'homme. Eh bien, donc, il y a cette forme d'isolement total. On coupe tout ce qui pourrait, effectivement, empêcher cette notion très forte d'emprise. Juste aussi pour rassurer cette jeune fille qui vient de témoigner, il ne faut pas oublier que le pervers narcissique fait de ses enfants des trophées. Donc quand ça lui convient, quand l'image des enfants leur convient, quand ils ont fait de brillantes études, tout va bien. Mais sinon, c'est pas bien pour lui parce que ça écorche son ego et son image.
Nathalie Debois-Grolier, quelle forme peut prendre le harcèlement moral au sein de la famille, au-delà des pervers narcissiques qui sont des cas extrêmes?
Ça va être une quête de l'enfant parfait, hein, où on va surinvestir l'enfant dans une réussite. Donc on va multiplier des activités extrascolaires, on va être sur l'observation, l'intervention systématique au niveau des devoirs scolaires et des faiblesses scolaires, avec après, comment dirais-je, une mise sur un piédestal de cet enfant vis-à-vis des amis et des autres enfants. En ce moment, je suis un couple qui est exactement dans ce fonctionnement-là, une survalorisation de l'enfant et un épuisement, je dirais, de la sphère familiale, aussi bien de l'enfant que du couple. Et puis l'enfant va devenir un enjeu. Voilà ce que moi je fais, mais tu fais mal, mais t'en donnes pas assez, mais t'en donnes trop. Et donc tous les comportements vont être regardés et vont être source justement de critiques verbales sur l'autre conjoint par rapport à l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de leur propre enfant. Et l'enfant devient un lieu de pouvoir et un jeu de pouvoir.
Et les mots peuvent faire mal dans le cadre de la famille.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Tu devrais pas mettre ce t-shirt. Il te fait des gros bras.
Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme toi?
T'es une moins que rien.
Heureusement que t'es jolie, ma chérie. Je t'aiderais peut-être.
Si j'avais su, j'aurais pas fait d'enfant.
T'es une moins que rien!
De toute façon, tu as toujours été beaucoup plus lent que ton frère.
Nous venons d'entendre entendre l'extrait d'une campagne contre les violences verbales. Une campagne vidéo lancée en septembre dernier par l'Observatoire de la violence éducative ordinaire et le comité Stop VO Enfance sans violence en France. Intitulée « Les mots qui font mal », on voit 5 adultes qui nous livrent une petite phrase qui les a marqués à vie. Pourquoi est-ce important pour vous aujourd'hui de parler de violences verbales, Yvonne?
Alors, la violence verbale, on dit bien souvent les mots M-O-T-S sont terribles et parfois sont beaucoup plus insidieux et beaucoup plus lents à cicatriser que la violence physique. Pourquoi ? Parce qu'ils s'inscrivent, dans l'inconscient. Il y a une forme de refoulement, mais néanmoins ils opèrent d'une manière sournoise et on continue à se dévaloriser, à se culpabiliser, on a peur de tout. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans la violence verbale parentale, il y a cette forme de clivage qu'ils font au niveau des enfants. Le pervers narcissique ayant pour objectif de faire un de ses enfants son clone, c'est-à-dire son héritier.
Les voisins, les voisines, vous pouvez nous laisser vos messages sur WhatsApp au 33 1 84 22 71 71. Et déjà, nous avons quelques messages, notamment sur cette question de violence verbale. Écoutez.
Bonjour les voisins, je me rappelle toujours quand j'étais petit, mon père s'apprenait toujours en moi. Parfois il me fouette, parfois il vocifère contre moi. Mais au fur et à mesure, et quand j'ai grandi, donc je me suis rendu compte que toutes ces violences étaient dans mon intérêt, car il voulait tout simplement que je sois éduqué, que je réussisse ma vie. Et du coup, j'ai justifié toutes ces pratiques à mon égard.
Bonjour, bonjour les voisins. Je veux parler de mon père qui, par le passé, a eu des mots très durs à l'égard de ses enfants que nous sommes. Par exemple, il avait l'habitude de dire « Vous irez mendier, vous êtes des mendiants, vous irez mendier chez vos cousins. Vous ne voulez pas fréquenter, vous ne voulez pas avoir de bons moyens, vous êtes nuls, vous êtes des vauriens, vous ne me servez à rien, ainsi de suite. » Ça nous a plutôt permis, à un certain moment, de nous révolter et dire « Mais il faut qu'on lui montre que nous sommes à la hauteur. » C'est comme ça que nous avons commencé à affronter. Et aujourd'hui, on lui dit merci parce que s'il avait été tendre envers nous, nous ne sommes que des garçons, je pense que nous aurons été nuls. Et lui, il nous dit, quand on est en réunion, que si je n'avais pas été dur, vous n'aurez pas été des hommes.
Bonjour à la Radio Mondiale, je suis Prosper Royeton du Bénin. Moi, dans mon enfance, j'ai beaucoup été victime de ces invectives de la part des parents. Et ce sont des invectives qui m'ont beaucoup déstabilisé dans mon enfance, et m'ont amené à perdre confiance en moi. Et même jusqu'à présent, dans l'enfance, quand il suffit qu'on vous envoie dans la chambre aller chercher un objet que vous tâtiez à le retrouver, ou encore pire, que vous ne le retrouviez pas, on dit « Bon, voilà, je savais que tu n'allais pas réussir à trouver ça. Voilà, tu es pire que tes frères, c'est ce que tu fais tout le temps. » Ou encore pire, quand on va pour chercher quelque chose et pas mes gars, ça tombe, on dit « Ah oui, voilà, tu fais toujours tout tomber. Voilà, c'est comme ça tu es. Je me demande même comment tu arrives à t'en sortir à l'école. Tu es nul. » Mais en réalité, ce sont des phrases qui m'ont déstabilisé dans l'enfance. Ce sont des phrases qui m'ont fait perdre confiance en moi. Mais aujourd'hui, je réalise que l'objectif des parents, quand ils nous insultent comme cela, c'est surtout l'amener à corriger une erreur. Juste que les parents emploient la mauvaise manière d'amener l'enfant à corriger l'erreur. Parce que ce n'est pas l'enfant qui a commis l'erreur, mais c'est surtout l'erreur qui a été commise. Il faut amener l'enfant à comprendre que oui, tu as le droit de commettre d'erreurs, mais le devoir du parent devrait être aussi de l'amener à le corriger cette erreur. Et je comprends qu'aujourd'hui, que les parents doivent chercher une manière plus moule, une manière plus simple de corriger les enfants, parce que insulter les enfants, ce n'est pas corriger l'erreur que l'enfant a commis, mais c'est déstabiliser l'enfant lui-même. C'est ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Merci à vous.
Yvonne Poncet-Bonisol voulait réagir à ces paroles de voisins.
Alors, très longtemps, on a confondu dressage et éducation. Donc, il est vrai que parfois, quand on insulte les enfants jadis, on pensait que ça les renforçait. Pourquoi pas ? Parce que toute forme de souffrance, toute forme d'humiliation peut être réparée par ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Mais dans tous les témoignages, on est quand même dans le dressage et on appellerait ça aujourd'hui une forme de maltraitance.
Il y a aussi un déni qui peut s'opérer de cette violence verbale subie.
Ah oui, il y a le déni total. D'ailleurs, quand on est face à face avec une personnalité toxique, pour ne pas répéter ce terme de pervers narcissique qui est un peu galvaudé, eh bien, il y a le déni parce qu'ils sont dans trois, on peut retenir pour eux trois choses. Ils sont dans le déni, c'est jamais eux. dans le défi, ils mettent l'autre au défi, est un peu délicteux, et c'est là où on voit qu'ils peuvent transgresser au niveau éducatif.
Mais comment on grandit alors après ces épisodes de violence verbale ?
Eh bien, ces mots MOT vont se transformer en mots MAUX, hein, qui vont s'exprimer très souvent à travers des symptômes psychosomatiques, des maux de tête, des maux de ventre, de l'eczéma. Ça va aller éventuellement sur des comportements d'automutilation, de violence vers soi. Et puis des fois, ça va aller vers des violences vers l'autre. Et c'est aussi comme ça que des enfants peuvent devenir aussi harceleurs dans leur classe, parce qu'ils ont un modèle. Et donc, ça va être une façon aussi, comment dirais-je, d'exprimer
de reproduire
leur
ce
souffrance.
Et plus tard, ils cherchent un partenaire qui ressemble à la personne, au parent qui a été toxique. Mmh. Et on reproduit un peu toujours ce schéma, parce qu'ils confondent, il faut absolument souligner ça, les enfants confondent indifférence et force. Ils sont persuadés que quand quelqu'un est maltraitant, il est fort, il est solide. Erreur.
Élodie Mulon, que dit la justice en France au sujet de cette violence verbale ?
Mais alors, la justice, pour l'instant, enfin, elle ne dit pas grand-chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle n'a pas beaucoup de réponses, puisqu'on est confronté à un problème de preuve. Ce qui est intéressant, parce que j'entendais les témoignages et j'entends ce qui se dit, c'est qu'en réalité, je pense qu'il faut distinguer les pervers narcissiques, les harceleurs qui sont peut-être... Et puis, en fait, les parents. En fait, je pense que les parents... assez spontanément disent des choses pas gentilles à leurs enfants parce que ça se fait, c'est l'éducation. Et c'est là où la justice et la loi doit prendre toute sa place, c'est de dire, en fait, ce que vous faites est de la maltraitance. Et je trouve que depuis, et moi je le vois dans les dossiers, que depuis qu'on dit aux parents, en fait, dire à son fils que c'est un mongol parce qu'il comprend pas un truc, je caricature, mais à peine, hein. En fait, les parents l'ont dit comme ça. Et aujourd'hui,
sans réaliser l'impact,
et sans réaliser en fait que ça pouvait avoir comme impact. Et je pense qu'on a eu des générations d'enfants, et on est sans doute des générations d'enfants à avoir été élevés comme ça, et pas tous complètement fragilisés par la situation. Mais ce que la justice doit faire aujourd'hui, enfin ce que la loi d'abord doit faire, c'est très clairement mettre un mot sur ces mots et dire ce que vous faites, c'est vous maltraiter avec les risques que ça encourt. Je pense que on est confronté à un problème de preuve, mais le problème de preuve peut se résoudre en partie si l'entourage entend que ces mots-là sont des mots qui sont des mots maltraitants.
D'où l'importance de communiquer sur ce sujet.
D'où l'importance de communiquer. La campagne de presse qui a été faite est essentielle. Est essentielle parce qu'elle a attiré l'attention de parents qui n'étaient pas de mauvais parents, qui étaient juste des parents extrêmement maladroits.
Alors nous sommes en ligne avec une voisine, Marilyn, à Paris. Bonjour Marilyn.
Bonjour.
On vous écoute, Marilyn.
Alors j'ai essayé de faire court. J'ai vécu des violences familiales au sein de ma famille. Alors je suis métisse, de père inconnu, de mère française qui m'a abandonnée. J'ai vécu en orphelinat et puis en maison de la famille d'accueil, j'ai eu droit de vivre chez ma tante, la mère de ma sœur. Il y a eu des traits de famille que j'ai élevés, mais il a fallu que je me batte longuement. Et je voulais savoir qui était... Alors ma violence, c'était quoi? C'est comme ma tante m'a dit un jour, « T'es noire comme un singe, ta mère t'a laissé que la laideur et pas la beauté. »
Voilà, ouais, des injures racistes, ouais.
Voilà, donc c'était au sein d'une famille uniquement blanche. Est-ce que je suis le vilain petit canard ? Enfin, j'ai été considérée comme le vilain petit canard. Quoi.
Et comment vous avez réussi à surmonter ces mots, cette violence ?
Écoutez, ça fait 30 ans, ça va faire depuis 90, peut-être pas 30 ans, mais 90 que je fais une psychanalyse. Donc même psychiatre et mon psychanalyste, maintenant j'en vois deux, m'ont dit que j'étais une résiliente. Ils étaient étonnés de voir avec quelle force de vie j'avais et comment j'avais dépassé ça. J'ai étudié. Je suis partie. J'ai 64 ans. Hein, donc à un moment donné, j'ai mis ma tante. Je suis partie vivre. Dans ma famille d'accueil, j'ai mis ma tante au juge. Il y a eu le juge pour enfants m'a émancipée à 18 ans au lieu de 21. Et puis j'ai mis ma barque tant bien que mal. Bon, voilà, quoi. J'ai du mal beaucoup à me trouver, à m'accepter en tant que noire, déjà. Ça a été très très compliqué. Je ne m'appréciais pas. Je ne pensais que je ne pouvais pas plaire. Ça a eu des incidences sur ma vie de femme.
Et aujourd'hui encore, vous cherchez à vous reconstruire. Merci, merci beaucoup Marlène pour ce témoignage.
Très touchant, donc une résilience parfaite. Et c'est vrai que quand on arrive à sortir de cette posture de victime et quand on arrive à faire de ces humiliations une force, eh bien son talon d'Achille, eh bien c'est quelque chose qui apparaît fondamental pour s'en sortir et pour faire... Et alors elle dit une chose très intéressante, l'intellectualisation qui est un mécanisme de défense qui vous permet effectivement de mettre beaucoup de baume sur toutes vos souffrances.
7 milliards de voisins, quand les mots s'immiscent, les mots qui font mal s'immiscent en famille, source de souffrance qui reste difficile à effacer, même avec le temps. On vous attend les voisins pour vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. Si vous voulez nous raconter vos blessures d'enfance ou bien votre appréhension en tant que parent, peur d'être père, c'est signé Damso et c'est tout de suite sur RFI.
Première fois que je parlerai d'un mort, en chanson pour faire court. Oui, j'ai peut-être peur de ne pas être le père que ça l'être. Je tremble à chaque fois que je vois un boule. Bonne paire de kilojoules. Comment donner l'exemple de ce que je serai jamais, eh. Versus scolaire très inquiétant. Bande de chiches stupéfiants. Et puis merde, façon chacun sa destinée, eh. Policier, peut-être tu sauras. Que pourrais-je faire contre ça? J'ai si peur d'être un père.
Famille fait mal aujourd'hui dans 7 milliards de voisins. Avec nous pour en parler et réveiller parfois des blessures d'enfance, la psychoclinicienne Yvonne Poncet-Bonisol qui a publié aux éditions d'Angle le livre pour en finir avec les tyrans et les pervers narcissiques dans la famille. Également avec nous Élodie Mulon, avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille, et Nathalie de Bois-Grolier, coach parental qui publie aux éditions Attier le livre Heureux à l'école, tout commence à la maison. Alors tout commence à la maison, oui, dès l'enfance on peut être malmené à coups de mots, des mots durs prononcés par des parents ou bien des injures répétées quotidiennes de la part de son frère ou de sa sœur. Écoutez ce pédiatre américain sur la chaîne américaine ABC News. Il évoque une enquête sur le sujet.
C'est une étude très large qui a été menée auprès de 3600 enfants. On a interrogé des enfants adolescents et les parents d'enfants plus jeunes. Et nous avons trouvé que les effets du harcèlement étaient les mêmes, qu'ils viennent des frères et sœurs ou d'un camarade à l'école ou même d'un enfant rencontré dans la rue. En tant que pédiatre, je me concentre beaucoup sur le harcèlement. Je pose toujours la question aux enfants pour l'école, mais je ne la pose jamais pour la maison. Et ce qui a été trouvé ici, c'est que c'est aussi néfaste pour l'enfant d'être harcelé par un frère ou une sœur à la maison que d'être harcelé par un enfant à l'école. Je pense qu'il faut faire attention à cela quand on est parent. Il ne faut pas minimiser ça. Et il y a des choses que vous pouvez faire chez vous. Vous pouvez mettre en place une règle zéro tolérance pour le harcèlement. Pas de ça à la maison. Vous pouvez aussi vous assurer que vous ne montrez aucun signe de violence vous-même à la maison, à travers votre propre comportement. Et si vous êtes témoin de harcèlement entre vos enfants, il faut les séparer et chercher des interactions positives entre les enfants. Donc si vous voyez votre fils et votre fille être gentils l'un avec l'autre, vous pouvez récompenser cela d'une façon ou d'une autre et encourager cette action positive.
Alors on commence aujourd'hui à évoquer le harcèlement entre frères et sœurs à la maison. Vous connaissiez ce problème, Yvonne Poncet-Bonisol?
Oui, ça existe et on en parle peu, c'est vrai. Et il y a aussi d'ailleurs des violences sexuelles entre frères et sœurs. Et ça, c'est assez fréquent. En thérapie, on voit souvent des enfants qui ont été victimes d'attouchements de la part de leurs frères ou vice-versa. Et ça dépend aussi des parents qui ont tendance à avoir un chouchou, ou à privilégier la place d'un des enfants.
Donc celui-là à susciter se sent, des jalousies. Oui,
celui-là se sent dans la toute-puissance et écrase les autres. Donc c'est là où naît le harcèlement, quand on met quelqu'un dans une forme de toute-puissance.
Nathalie Debois-Grolier.
Je dirais que c'est important que quand un enfant parle mal à son frère et à sa sœur, d'intervenir déjà tout de suite. Voilà, parce que les mots font mal et dans notre famille, on parle correctement ou on ne s'exprime pas de cette façon.
En disant ça, par exemple, à un des enfants concernés.
Et vraiment intervenir à chaque fois qu'un enfant va essayer de se moquer de sa sœur ou d'humilier son frère. Et c'est des choses qu'on voit aussi très souvent vers l'adolescence, quand il y a les transformations de corps ou quand ils se cherchent dans leur style vestimentaire. Donc intervenir systématiquement en disant on ne parle pas comme ça.
Et à partir de quel moment on peut parler de harcèlement ?
Quand il y a répétition, quand c'est systématique et quand il y a une forme de projection du mal-être du harceleur sur l'autre. Mais il faut qu'il y ait répétition pour qu'il y ait harcèlement.
Alors, on va voir comment se reconstruire après de telles blessures. Passer par l'écrit peut-il nous apaiser ? On va le voir tout de suite.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Et nous sommes en ligne avec le psychiatre Gérard Salem, spécialiste en thérapie familiale. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez le livre « Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents ». Ce sont des lettres, en fait, imaginées au sein d'une famille. Pourquoi raconter la souffrance au sein d'une famille par ce biais-là, par ce biais des lettres ?
Parce que ça me paraissait un moyen tout à fait éloquent de la présence et de l'attention offerte à l'autre. Envoyer un SMS ou un email, ce n'est pas la même chose que de prendre le temps de rédiger à la main une lettre, de la poster, de la porter à la poste, etc. C'est une présence et une attention à l'autre qui demande aussi réflexion et qui n'est pas simplement une humeur d'un moment qu'on peut regretter ensuite dans ce qu'on a dit et déclaré, n'est-ce pas ?
Et alors, il est question, avec l'une des lettres donc, que vous écrivez, celle de Boris, de rupture familiale, hein, d'enfants qui décident de ne plus voir leurs parents. Est-ce que ce sont des cas qui se présentent souvent dans votre cabinet ?
Oui, ça c'est fréquent. C'est un phénomène que les anglo-saxons appellent le cut-off. C'est la rupture qu'on peut voir sur le plan aussi bien horizontal dans un couple, n'est-ce pas, que sur le plan vertical, et ça c'est plus intéressant, plus profond, quand d'une génération à l'autre on rompt les liens et qu'on est comme perdu d'avoir rompu les liens, même si on avait de bonnes raisons de le faire. Et dans ce livre, l'importance du lien, de la spécificité du lien familial est mise en valeur. Dans qu'est-ce qui fait que après 7 ans de rupture, comme c'est le cas de Boris, il suffit d'envoyer une lettre à la main et ça déclenche un effet domino. Toute la famille se remet à écrire, à s'écrire, même les petits cousins de 15 ans, et en respectant ce nouveau rituel de l'écrit à la main.
Et comment expliquer qu'on en arrive à de telles situations, à de telles ruptures brutales ?
Souvent, ce sont des vécus d'injustice. J'ai entendu une de vos invitées parler des injustices qui suscitent des harcèlements. C'est vrai, c'est le cas. D'avoir vécu une succession injuste, d'avoir vécu le sentiment d'être le dernier et pas le préféré, d'être le fils maudit ou je ne sais quoi, entraîne des ruptures, des conduites extrêmes qui visent à sauvegarder l'individu, soi-disant, en rompant les amarres, en coupant les amarres, en croyant qu'en coupant les liens, on résout le problème. Or, ça ne fait que construire un nouveau problème. Et ça, on le voit souvent en clinique, dans nos thérapies familiales, et comme dans les thérapies individuelles, c'est un témoignage fréquent.
Et dans ces cas-là, quel conseil est-ce que vous prodiguez ? D'écrire ? De renouer le dialogue ?
De renouer en tout cas le dialogue. Écrire, c'était une fantaisie de ce roman, où je mets en scène une scène fictive, une famille fictive, qui se met à s'écrire tous en adoptant ce rituel de l'écrit à la main, et qui restaure tout à fait les liens, revient dans le dialogue, parle des injustices vécues, fait des réparations, reconnaît des reconnaissances, accorde le pardon, etc. Il est vrai que c'est un poète canadien, Alden Nolan, qui a donné cette phrase dans une citation plus large, où il dit « Le jour où des enfants prennent conscience que tous les adultes sont imparfaits, ils deviennent adolescents. Le jour où ils pardonnent aux adultes, ils deviennent adultes. Et le jour où ils se pardonnent à eux-mêmes, ils deviennent sages. »
Donc, c'est une jolie phrase. Pardonner, donc, et d'abord à ses parents, puisque c'est le titre de votre ouvrage.
Oui, mais ça peut être aussi à ses enfants, n'est-ce pas? Oui. Le pardon est toujours à double courant. Oui. On peut se pardonner dans tous les sens. C'est pas plus aux enfants de pardonner à leurs parents qu'aux parents de pardonner aux enfants. Ça, ce sont des asymétries un peu mythologiques dont on a hérité. Or, le pardon est un moteur fantastique dans une famille qui met en valeur aussi bien sa vulnérabilité que ses ressources et sa force.
L'importance du pardon et du dialogue dans la famille. Merci beaucoup, Gérard Salem. Yvonne Poncet.
Le pardon est un don, donc c'est une offrande. Donc c'est vrai que les enfants peuvent offrir ce cadeau à leurs parents et les parents aux enfants. Néanmoins, pour les retrouvailles, il y a bien sûr la lettre, mais il faut scénariser. Je veux dire que le docteur Salem a scénarisé ses retrouvailles dans son livre. La scénarisation est importante parce que sinon, l'affect est débordant pour les retrouvailles. Il faut faire très attention.
Il faut ritualiser la chose. Comme un rite de passage,
voilà.
Comme un passage qui a un sens pour tout le monde, pas seulement oui. pour une personne.
Oui.
C'est que tout le monde se reconnaît dans cette cérémonie du changement.
Voilà. Merci beaucoup Gérard Salem d'avoir participé à notre émission. Élodie Mulon.
Oui, ce qui était intéressant, c'est que j'entendais que les successions pouvaient être la cause de ces... Querelle familiale, en réalité, c'est souvent la conséquence. Nous, on récupère des successions qui sont d'une violence inouïe. Et en fait, en parlant avec les gens, on se rend compte que, évidemment, la succession a pour objet l'argent à première vue. Et en réalité, il y a bien autre chose derrière. Et toute la vie de famille se rejoue. Mais vous avez des gens qui sont âgés de 70 ans et qui vous racontent des scènes avec leurs sœurs et leurs parents quand ils étaient tout petits. Et maintenant, on résout beaucoup le problème en faisant des médiations. Et on se rend compte que les médiations permettent de dire les choses, voilà, et de régler des difficultés qui semblaient, mais complètement...
Et qui peuvent remonter à
fermées.
L'enfance.
Et on a des successions qui peuvent, mais qui remontent toujours à l'enfance. C'est ça qui est intéressant. C'est que derrière ce qui va se dénouer pendant les successions, voilà, par des parents qui n'ont pas donné à chacun la même chose, ou qui ont fait bénéficier à l'un des enfants plus qu'à ses frères et sœurs, ou qui a tout donné à son épouse, on a un exemple récent. Derrière ça, il y a autre chose qui se joue. Et c'est pour ça qu'être déshérité, c'est d'une violence inouïe.
Ils ont aussi des enfants, n'est-ce pas? Ils ont vécu, et puis ce qu'ils ont vécu comme injustice dans leur enfance, ils peuvent le reporter, le répéter avec leurs propres enfants.
Oui, exactement.
Nathalie de Bois-Grolier.
Oui, effectivement, dans les héritages se rejouent les blessures familiales. Quoi.
Voilà. Et de façon transgénérationnelle.
Donc
il y a une répétition. Et pour rebondir sur justement la toxicité du lien, ou l'absence de lien, on retrouve aussi d'une manière transgénérationnelle des êtres qui deviennent toxiques par rapport à une identification à un grand-père ou une grand-mère. Et ça se rejoue au niveau du transgénérationnel.
Ils font des alliances aussi.
Des alliances, oui.
C'est assez intéressant.
Ça c'est juste.
7 milliards de voisins, vous restez avec nous. On retourne un peu en enfance, une enfance pas toujours tendre, avec Eddie de Préto, Kid.
Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs ni des gestes qui veulent dire et je sais c'est ce sont tout de même les pires à venir. Te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. liquide. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à terre et dopé de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Nathalie de Bois-Grolier, vous qui êtes coach parental depuis près de 20 ans, quelles questions se posent en général les parents au sujet de l'éducation de leurs enfants? Et à quels problèmes font-ils face?
Eh ben, moi, je trouve en ce moment, et particulièrement une dérive de la parentalité positive. Voilà.
On va peut-être définir d'abord parentalité positive.
La parentalité positive, c'est une boîte à outils qui vous permet justement de vous interroger de quel parent vous êtes, quel parent vous avez envie d'être, et de ne pas fonctionner avec une grande part d'automatisme ou d'inconscience, ou voire éventuellement d'héritage qu'on a reçu en tant que enfant, c'est-à-dire de prendre une distance et de faire le tri justement de ces blessures d'enfance ou ces manques d'enfant pour essayer de trouver l'équilibre et pas se construire contre ou avec, et de prendre conscience de ces blessures, d'éviter d'être dans le déni. Voilà, j'ai des parents, et dernièrement j'ai un père qui m'a énormément touchée parce qu'il prenait conscience comment il avait souffert d'une violence ordinaire de mots de son père, et qu'il apprenait au quotidien à être attentif à ça pour ne pas les transmettre à ses enfants.
Et donc vous parlez de dérive de cette parentalité positive, c'est-à-dire?
Bah oui, parce que du coup, en voulant être parfait, voire trop parfait, voire combler ce qu'on n'a pas reçu, on va aller vers des excès, et ces excès, des fois, sont néfastes.
Quels excès, par exemple?
Moi, dernièrement, je découvre que on demande aux parents d'intervenir tout de suite et systématiquement face aux pleurs de l'enfant. Mais il y a des fois des pleurs qui sont nécessaires pour évacuer des tensions et des stress et des crises de colère qui sont réparatrices. Et donc, voilà, trouver son équilibre pour intervenir, pour éviter la souffrance, pour éviter que l'enfant se fasse mal ou qu'il fasse mal à un autre, et laisser aussi ce temps pour que l'enfant construise ses propres réponses, trouve ses propres ressources, et de pas intervenir systématiquement, poser éventuellement des mots maladroits pour éviter que cette souffrance s'exprime. Quoi.
Et alors, quels conseils vous donnez aux parents que vous recevez? Vous évoquez notamment le langage corporel.
Oui, parce que beaucoup de choses s'expriment à travers le corps, surtout chez un enfant, parce qu'il n'a pas forcément la conscience de ce qu'il vit, il n'a pas non plus forcément le vocabulaire, donc effectivement, il va s'exprimer à travers des violences physiques faites sur les objets, ou de violences physiques faites sur son petit frère, ou même éventuellement sur un grand, où on a des enfants de 4-5 ans qui tapent aussi leurs parents. Et puis toute la palette d'expressions symptomatiques dont j'ai déjà parlé, que peuvent être les mal de ventre, les maux de tête, comment dirais-je, des cauchemars.
Et quand on parle de langage corporel avec ses enfants, ça veut dire quoi concrètement?
Eh bien, notre enfant va nous dire des choses sur justement ses besoins, sur son état émotionnel, mais comme on n'a pas appris à les lire et qu'on est une société très éloignée du corps et de l'écoute du corps, on ne saura pas forcément interpréter ce langage. Et moi, très souvent, je propose aux parents de passer par le support coloriage et dessin pour aussi arriver à poser des mots plus facilement. Voilà, en famille.
Alors j'aimerais vous lire le message de Jean-Luc à Cotonou, au Bénin, qui nous dit « Aujourd'hui je suis pessimiste, je m'en suis sortie mais mes parents étaient très durs avec moi. Ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient et ça a mis de la distance avec nous. » Alors Yvonne Poncet-Bonisol, qu'est-ce qu'on fait quand
ça
on se rend compte une fois adulte
avec les parents ou avec...
Avec les parents.
Les parents. Ben, c'est normal parce que quand on est face à une grande toxicité relationnelle, quand on a l'impression de ne pas être aimé, la seule façon c'est effectivement pas de prendre la fuite mais de prendre de la distance pour se construire. On ne se construit pas dans un climat de toxicité affective. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on est envahi par la culpabilité, par la peur, par le doute. Nous concernant, donc on est obligé effectivement de prendre de la hauteur et donc de la distance.
Sans forcément rompre totalement.
Sans forcément rompre.
Avec
mais
ses parents.
Dès lors qu'on comprend que les parents qui sont toxiques sont, parce que ça existe, et qui procèdent à une pédagogie qu'on appelle une pédagogie noire, il est évident que dès lors qu'on prend de la distance, on peut se réparer.
Et comment faire, Élodie Mulon?
Non, juste, je rebondis sur ce que dit Yvonne et justement sur la nécessité parfois d'éloigner les enfants du parent toxique. Oui. C'est extrêmement compliqué pour un juge notamment parce que parfois la question se pose de savoir s'il vaut mieux pas placer les enfants, et on l'a parfois dans le cas de divorces qui sont très conflictuels, avec où l'enfant est un enjeu majeur pour des raisons qui tiennent pas toujours à son intérêt, et où on se dit, est-ce qu'il ne faut mieux pas, et le juge pour enfants dans cette hypothèse est saisi, placer les enfants plutôt que de les laisser avec des parents toxiques. Et ça, c'est...
Pour les protéger temporairement.
Oui, mais c'est extrêmement compliqué parce que l'enfant, en règle générale, préfère rester avec ces parents-là qu'ils détruisent à petit feu. C'est vraiment des situations qui sont, et même pour les avocats, qui sont très complexes. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un peu de mal avec le placement.
Oui, on peut souligner que finalement, même l'enfant s'attache aux parents aussi diaboliques soient-ils.
On arrive à la fin de cette émission, Élodie Mulon. Quel appel vous lancez à ce sujet en France, à la justice française?
À la justice, sans doute d'être plus à l'écoute, et je le dis si vous voulez, avec, en sachant à quel point c'est compliqué pour les juges, d'être plus à l'écoute de ce que disent les gens. Et pour ça, il y a une seule solution, c'est que les juges aient plus de temps et plus de moyens pour entendre les justiciables. Et là, la justice aujourd'hui est telle que le temps n'est pas là. Ça, c'est clair, et on l'entend beaucoup avec tous ces processus de déjudiciarisation qui sont en train de se mettre en place. Et s'il y a déjudiciarisation sur ces problèmes-là, il n'y aura pas d'écoute des juges. Ça, c'est compliqué, et il faut que la loi apporte une réponse beaucoup plus claire à ce qui est harcèlement moral, avec une définition plus claire au sein des familles, des sanctions qui sont attachées, avec un risque, c'est que ce soit instrumentalisé dans les procédures. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très embêtant.
En tout cas, le harcèlement au sein de la famille devient un vrai sujet, un vrai enjeu. Merci beaucoup Élodie Mulon, Yvonne Poncet-Bonisol, Nathalie de Bois-Grelier. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Romain Dubrac, Arthur Tossou, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Thomas Delpech, et merci également à Didier Chérouz, il y a du monde aux manettes. Et merci à vous bien sûr les voisins et les voisines. Demain, 7 milliards de voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastide à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, 5 ans après la promulgation de la loi Taubira en France qui permet aux personnes de même sexe de se marier. À bientôt les voisins.